Voilà, il y a des gens qui lèvent les mains, si on peut. Voilà.
Je voulais savoir qu'est-ce qui fait que les chrétiens évangéliques puissent avoir peur de lire l'Apocalypse. On a crocheté avec Patrick, le frère Patrick, un jour. On parlait avec deux sœurs qui ont vraiment peur de lire l'Apocalypse. Elles peuvent même pas ouvrir le livre de l'Apocalypse, quoi.
Oui, mais parce que quand on dit Apocalypse, dans la logique commune, c'est les jugements derniers, les tribulations, les sauterelles qui dévorent. Je crois que c'est ça la vision que beaucoup de chrétiens ont du livre d'Apocalypse. Or, ce n'est pas que ça. L'Apocalypse parle de beaucoup de choses profondes, importantes pour la vie d'un chrétien. Il y a beaucoup d'encouragement même, quoi. Je crois que d'un côté, ça peut être des gens aussi qui ne sont pas très sûrs de leur salut, ou alors c'est des gens qui ne sont pas non plus très d'accord encore avec tous ces jugements-là. Ça paraît très horrible. Il y en a qui ont du mal à comprendre qu'un Dieu d'amour puisse permettre tous ces jugements-là. Ils n'ont pas encore réglé ce problème-là dans leur cœur. Mais moi, je peux dire une chose. Quand on voit le mal que font les humains, on peut comprendre qu'il y ait de tels jugements. Quand on voit le mauvais cœur des humains, l'ingratitude des humains vis-à-vis de Dieu, quand on voit comment des femmes sont vendues comme de la matière pour la prostitution, elles sont arrachées, dupées de leur famille dans les pays de l'Est, en Afrique, quand on voit ces injustices-là, quand on voit qu'il y a 200 personnes qui décident une guerre en Irak et qui tuent des milliers et des milliers de personnes, quand on voit qu'il y a peut-être 500 personnes ou 1000 personnes en Europe qui décident que tel pays doit rester sous-développé pour qu'on continue à piller ce pays-là, quand on voit ces injustices-là, on comprend le niveau de la colère de Dieu, comment ça peut être. Je crois qu'un chrétien doit accepter que Dieu ait une telle colère. Nous devons prier que Dieu se révèle à nous pour réaliser que sa colère est une bonne chose, quoi. Voilà. Question? Voilà. Comme il n'y a pas de question, oui. On n'a pas trop de temps pour l'enregistrement. Donc ceux qui ont des questions, vous levez les mains rapidement pour qu'on vous voie et puis qu'on peut, sinon. À chaque fois qu'on va apporter le micro, ça va prendre du temps. Oui.
Oui, pasteur, c'est pour savoir, vous avez parlé des livres qui sont au même niveau que la Bible. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet aspect
Voilà,
par la
donc
prédication?
dans beaucoup de mouvements dits chrétiens, ils ont la Bible. Mais en même temps, ils ont autre chose que la Bible. Dans ces mouvements-là, on insiste sur ces livres-là. Donc, un exemple, c'est les Mormons. Ils prétendent utiliser la Bible. Mais en réalité, il n'y a pas que la Bible. Ils ont le livre de Mormon. Maintenant, quand un Mormon, par exemple, t'aborde, tu lui dis, mais moi, je suis chrétien. Je suis la Bible. Vous suivez la Bible? Oh oui. Ah ben d'accord. Puisque vous suivez la Bible, moi, je suis la Bible. On est quitte. Que Dieu nous aide à continuer notre vie chrétienne. Oh non, mais nous avons un autre livre. Les livres de Mormon, et ils vont insister, non pas pour te prêter une Bible ou te la donner, ils vont insister pour te donner le livre de Mormon. Donc finalement, le livre de Mormon a plus d'importance que la Bible parce que dans leurs mains, ils n'ont que le livre de Mormon et ils vont tout faire pour te le donner. Si pour eux la Bible était très importante, ils auraient tout fait pour te donner la Bible. Ou bien si tu disais que tu étais de la Bible, ils auraient dit, ben, tu as déjà la vérité, c'est bon. Mais pour eux, le livre finalement de Mormon est plus important que la Bible. Dans leur pratique, c'est comme ça que dans beaucoup de mouvements chrétiens, on peut comprendre que tiens, là, ça c'est leur livre secondaire. Parce que dans leur pratique, ils donnent beaucoup plus d'importance à ce livre-là qu'à la Bible elle-même. Donc il y a beaucoup de mouvements comme ça. Les témoins de Jéhovah, ils ont des livres secondaires. Le catholicisme a des livres secondaires. Et aujourd'hui, certaines églises évangéliques ont aussi des livres secondaires, c'est-à-dire tout ce que leurs serviteurs sortent comme livres et ils insistent pour que les gens lisent ces livres-là. Donc on sort un livre, c'est comme là on prêche, on ne peut pas insister pour que les gens, lisent, écoutent nos prédications comme si elles étaient leur salut. On peut conseiller, ah ben tu as tel problème, mais écoute cette prédication-là, ça va t'aider, et bien sûr en conformité avec la Bible. Mais quand on commence à insister, quand on commence à faire passer ça, ah ben ce livre-là, si vous lisez ça, vous serez transformé. Il y a des gens qui disent, conférence à tel endroit, ça changera votre vie. Cette conférence. Donc, c'est des phrases qui diminuent l'importance de la Bible. C'est comme si la parole de Dieu ne va pas changer la vie de quelqu'un, mais c'est cette conférence-là qui change la vie. C'est dans ce sens-là. Donc, oui, question.
Hier, on a parlé des apocryphes.
Des apocryphes, oui, oui.
Est-ce que le fait de lire, etc., ça peut être considéré comme un livre de substitution ou complémentaire?
Le fait que qui lise? Un chrétien?
Oui.
Mais pourquoi il va lire les livres d'apocryphes? Par curiosité, peut-être?
Oui.
Ah oui, par curiosité, on peut lire beaucoup de choses si on est guidé par le Saint-Esprit hein, aussi. Parce qu'il y a des livres, tu vas lire, après tu perds ta foi. Tout le monde n'est pas appelé à combattre les fausses doctrines. Donc on a des docteurs qui sont appelés à faire ce boulot-là. Ce n'est pas à tout le monde de lire les livres qui combattent les chrétiens ou qui sont pseudo-chrétiens. Parce qu'ils peuvent aussi être influencés indirectement. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont été influencés par des livres qu'ils ont lus, mais qui disaient des aberrations. Mais comme il y avait aussi des très bonnes choses, eh bien, ça faisait, vous savez, les gens, Jésus en parle, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, il y a des très bonnes choses, mais alors qu'il y a une mauvaise chose, mais on oublie la mauvaise chose parce qu'on a été séduit par beaucoup de très bonnes choses. On dit, mais non, mais je vais pratiquer les très bonnes choses. Mais or, c'est la même source qui nous a donné, qui donne aussi la mauvaise chose.
Donc, concernant ces livres qui n'ont pas été retenus, il n'y a pas d'importance à
aucune importance dessus. À lire ça. Sauf pour des recherches historiques. Voilà. Aucune importance spirituelle. Mais pour des recherches historiques, comprendre la vie des Juifs à l'époque, par exemple, quand vous lisez les livres de Maccabée, vous avez des renseignements historiques sur les années 400 à la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passait en ce moment-là, puisqu'on nous, on n'a pas ça dans notre Bible. Mais c'est historique, ce n'est pas spirituel. Il n'y a aucun objectif de salut dedans, aucun objectif de, spirituel lié à Dieu, quoi. Oui.
Je voudrais revenir un peu sur l'aspect science et puis la Bible. Parce qu'à peine, vous nous dites qu'il y a des géologues qui ont calculé des âges, qui ont trouvé des âges d'environ, dans les 4-5 milliards d'années, et qu'il y aurait des chercheurs américains qui auraient trouvé des âges qui sont conformes aux âges de la Bible.
Oui, oui.
Alors la question que je me pose, déjà de la Bible, est-ce qu'il y a un âge précis de la Terre dans la Bible? Parce que justement, pour qu'on fasse une comparaison, il faudrait déjà, au sein de la Bible, qu'on trouve un âge qui soit précis, donné dans la Bible.
Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, on peut calculer l'âge, puisqu'il y a l'âge des successeurs d'Adam. Et donc, ils ont calculé ces choses-là, ils ont trouvé les dates à peu près de la création de la Terre. C'était voisin. Ah oui, oui.
Et c'est estimé à combien à peu près?
Mais, calcule l'âge d'Adam, donc environ 7000 ans.
D'accord.
Voilà, c'est de nouveaux calculs géologiques basés sur des expériences qu'ils ont faites sur des terres, comment ça se superpose. Parce que les calculs des âges géologiques dépendent de la superposition des couches. Et ils ont compris que tel qu'on calculait la superposition, telle qu'on la voyait, ce n'était pas comme ça qu'il fallait calculer. Il fallait calculer en oblique. Bon, c'est des choses un peu...
La superposition des couches donne des âges relatifs et non pas des âges précis.
Pardon, j'ai pas compris.
La superposition des couches donne des âges qui sont relatives et non pas des âges précis. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui
Eux, ils n'ont pas dit qu'ils sont précis au maximum. Ils ont trouvé une autre méthode de calcul de la par rapport à la superposition des couches. C'est en oblique, ce n'est pas en vertical. On pourra toujours... te donner les documentations relatives à cela. Voilà.
Et puis, j'en profite pour hier, juste un petit feedback. Parce que hier, vous avez cité un exemple sur la misère du monde. Vous parliez que tous les hommes ont souffert parce que Parce que justement, lorsqu'il marche, mon fantôme tousse. Et
moi, lorsque
En fait, on souffre tous parce que justement, en fait, lorsque nous sommes enfants, quand tu marches, tu tombes, tu souffres tellement. Donc, justement, tu as eu en fait la tendance à résumer la souffrance du monde, en fait, au simple fait que nous tous en souffrons parce que justement, quand on est, quand tu vas apprendre à marcher, tu vas tomber, quand tu vas
Une façon d'ironiser résumé la souffrance à cela. La réalité, c'est que nous tous, on a souffert. Moi, je viens d'une famille où les parents ont divorcé. Mais aujourd'hui, les gens vont voir pasteur, ils vont venir pleurer pour dire que j'ai connu une enfance difficile. Si moi, je lui raconte mon enfance, il va trouver que mon enfance était difficile. Si je raconte l'enfance de quelqu'un d'autre, c'était... Et j'ai donné cet exemple-là juste pour ironiser. Hein. En réalité, chacun de nous a eu une enfance difficile. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui que j'ai eu une enfance...
Dans ce sens-là, je préfère pas qu'on ironise parce qu'il y en a qui le supporte mal, quoi.
Qui supporte quoi mal?
Ben, qu'on ironise sur la misère du monde, j'ai trouvé que c'est une simplification, c'est un raccourci assez dangereux quand même, parce que j'ai vu des gens en rire, et du coup, moi, ça ne m'a pas intéressé.
Non, mais les gens peuvent rire sans vouloir être méchants. Non, mais je crois que le but, c'était de montrer que la souffrance, tout le monde le vit. C'était ça l'objectif. Tout le monde vit la souffrance. Et donc, on ne doit pas devenir égocentrique et se concentrer que sur sa souffrance. Tout le monde vit la souffrance. Et l'un des mots, justement, des gens qui ne veulent pas sortir de leur passé, c'est qu'ils pensent que leur passé est le plus dur. Et il faut les guérir de cela. Maintenant, si j'ai blessé des gens en ironisant, je demande pardon. Mais cependant, l'objectif, c'est de montrer que tout le monde a souffert.
Et donc, dans ce sens-là, on comprend tous que c'est pas ça, quoi.
J'ai pas compris.
Je dis, dans ce sens-là, on comprend tous que ça pourrait être passable, ça peut passer, mais si on le prend en fait au premier degré, je pense que à ce niveau-là, quand même.
Donc, il faut pas le prendre au premier degré, au troisième. Ok.
D'accord.
Question. Oui, parce qu'on n'a pas le temps, il faut enchaîner les questions rapidement, parce qu'après, voilà, ceux qui ont le micro, ils commencent, quoi, parce que ma tante, ça...
Au niveau du catholicisme, tu as dit que la Bible était en troisième position. Mais pourquoi il y a si peu de personnes qui réalisent que le catholicisme ne respecte pas la volonté de Dieu, puisque s'il est quand même présent, la Bible est quand même présente dans le catholicisme, pourquoi est-ce que le catholicisme ne permet pas que les gens réalisent qu'ils sont dans
la festée? Mais puisque c'est en troisième position, on ne va jamais t'encourager à lire la troisième position, on va toujours t'encourager à la première position. Hein.
Oui, mais il y a quand même une position dans...
Non, on ne te dit pas que la Bible... C'est en troisième position, c'est dans leur document à eux. Hein. Donc c'est le magistère du pape. Donc c'est la capacité à interpréter qui est manifestée à travers les prédications des prêtres. Ils prêchent la doctrine du pape et ensuite il y a les livres des pères. Et vous allez entendre souvent, par exemple, les prêtres vous parler de Saint Ignace a dit ceci, un tel a dit ceci, un tel a... Vous n'allez pas... Quand tu entends souvent que ce sont ces pères-là qui ont dit telle chose ou telle autre chose, tu vas être beaucoup plus attiré à lire ce que ces gens-là ont écrit plutôt que la Bible. Hein.
Oui, mais à partir du moment où on est quand même quelqu'un dans la hiérarchie catholique, à partir du moment où on devient vraiment serviteur, soi-disant, de Dieu dans le catholicisme, il devrait avoir cette soif de celui qui se décide
cette soif de lire la Bible.
Il devrait avoir cette soif de lire.
Mais puisque, Dieu, pas forcément. Nous sommes des humains. Nous vivons en fonction de ce que notre communauté élève ou abaisse. Si notre communauté élève le magistère du pape, on va beaucoup plus suivre cela. Si notre communauté élève les livres des pères, on va beaucoup plus suivre cela. C'est en fonction de ce que notre communauté élève. Hein. C'est pourquoi les dirigeants ont une grande responsabilité de communiquer la Bible aux gens. Parce qu'en fonction de ce que le pasteur va élever, les gens vont suivre. Hein. Parce qu'il a comme une autorité qui entraîne les gens. Donc, il ne faut pas croire que quelqu'un de lui-même va commencer à se poser des questions, chercher. Non, Dieu va parler. Mais ce n'est pas facile quand on est dans une communauté qui élève une catégorie d'instruments, on a tendance à suivre cette catégorie d'instruments.
Donc en fait, elle est en troisième position, la Bible, mais il l'ignore totalement.
Voilà. Voilà. Donc elle est officiellement en troisième position, mais elle est ignorée dans la pratique de tous les jours. On la lit, bien sûr, hein, mais on lit un texte, après le prêtre commente en sa manière, et l'homme et s'attache à ce que l'homme, le prêtre dit. Oui, oui.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à un païen si te cite par exemple des passages de la Bible là où par exemple Dieu demande à Saül de tuer tous les Assyriens, ou alors la femme qui a été prise en flagrant d'adultère, il fallait la lapider et tout ça parce que c'était la loi de Moïse et tout ça, donc Dieu est méchant et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre par rapport à ça?
Si le païen te dit mais Dieu est méchant, il a demandé à Saül de tuer tout... moi, je vais lui dire aussi que ces hommes-là sont les premiers méchants parce qu'ils n'ont pas voulu céder devant Dieu. Ils avaient appris que Dieu est avec Israël, mais ont voulu résister à Dieu en résistant à Israël. Donc, en quelque sorte, Dieu a voulu éliminer le mal à travers qui avait ces hommes-là et montrer le jugement à venir. Il y a plusieurs leçons, parce que nous n'avons pas vécu avec ces gens-là. Ces gens-là peut-être avaient reçu des avertissements, ils n'ont pas voulu, ils se sont entêtés et ils ont reçu la sanction, qui est l'élimination de leur vie. Maintenant, il y a une autre leçon pour nous qui sommes vivants, à savoir Dieu va juger les péchés. Donc s'il a jugé ces gens-là, nous ne sommes pas mieux, nous ne sommes pas plutôt... ses cousins en lui, Dieu, nous sommes comme tous ces humains-là, il ne fera pas non plus de cadeau à celui qui est dans la ligne de mire de son jugement. Ça sera pareil. C'est un enseignement aussi pour nous qui vivons à notre époque. Et troisièmement, c'est un moyen d'éradiquer le mal qui sévit quelque part. On a vu comment on a tué les bœufs quand il y avait la vache folle, hein. Dès qu'on soupçonnait qu'il y avait quelque chose là qui pouvait se répandre, on éliminait. Ça peut être compris aussi comme cela. Puisque le mal a des dégâts plus graves que la mort de certaines personnes.
D'accord. Et j'avais une autre question aussi, c'est les apocryphes, ils ont été écrits quand? Avant le Nouveau Testament ou après?
Avant.
Avant, et le catholicisme a commencé après le Nouveau Testament?
Oui, oui. Non, d'accord. Non, le catholicisme a commencé après les écrits du Nouveau Testament, oui, oui, oui.
D'accord. Oui, oui. Mais pourquoi les catholiques, ils ont repris ces livres apocryphes, justement? Pourquoi est-ce qu'ils ont...
Ah, mais justement, c'est pour s'aimer la confusion, hein, dans la parole de Dieu. Hein. Parce que c'est ça, pourquoi ils reprennent ça alors que les juifs n'ont pas pris ça? C'est ça une des questions. Donc, ils ont s'aimé la confusion. Parce que déjà, dans la Bible qu'on appelle Tob, traduction écuménique de la Bible, eh bien, les catholiques reconnaissent que les livres apocryphes ne sont pas, des livres sur lesquels on doit reposer notre foi. Ils reconnaissent qu'ils ont une valeur historique. Donc, c'est la première fois qu'ils avouent ça, quoi, quand même.
D'accord, mais il y a des mauvais enseignements dedans ou...
Non, ça n'a pas été retenu. C'est pourquoi on les appelle aussi deutérocanoniques. Donc, deuxième canon, c'est les catholiques qui ont fait un autre canon. Le premier canon, c'est ce que les juifs avaient retenu, les 39 que nous avons dans notre Ancien Testament. Et ils ont fait un deuxième canon. C'est pourquoi dans cette traduction-là, Tob, on appelle ces livres-là deutérocanoniques. Deuxième canon. Donc, ils n'ont pas... Parce qu'il y a beaucoup d'écrits. Hein. Il y a plus que les écrits apocryphes, hein, qui ont été écrits dans le temps. Mais on n'a pas tout retenu. On a retenu ce que les sages de l'époque ont trouvé comme étant la parole inspirée directement de Dieu. Quoi. Oui.
Oui, premièrement, j'allais dire au frère qui a parlé tout à l'heure, quand il a dit que les gens rigolaient. Je suis parmi les gens qui ont rigolé, mais j'ai souffert dans mon enfance. Donc, les gens qui ont rigolé, ce n'est pas seulement les gens qui n'ont pas souffert. Et ma question, c'est... tous les chrétiens, apparemment, bon, quand on est chrétien, on peut se dire qu'on croit à la Bible, à la parole de Dieu. Je vais demander comment on peut reconnaître, voilà, comment on peut savoir que ce qu'on se disait en soi-même que c'est faux. Par exemple, si on dit que, par exemple, si je me dis que non, je crois à la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut me permettre de savoir que non, c'est faux, quoi?
Que la personne, en réalité, ne croit pas.
Voilà.
L'application. L'application, si la personne n'applique pas la parole de Dieu, c'est qu'en réalité, elle ne croit pas vraiment totalement. Parce que croire, ce n'est pas connaître. Croire, c'est se confier. Quand la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ce n'est pas croire dans le sens de reconnaître, dans le sens de se confier. Donc quand tu crois que le chèque que je te donne de 100 000 euros est un vrai chèque, tu ne vas pas le laisser dormir 10 ans dans ton sac. Hein. Tu vas aller vite mettre ça dans ton compte. Donc c'est ça croire, tu crois et tu pratiques, tu te confies en ça. Donc on reconnaît quelqu'un qui croit par la pratique. Oui, oui. Ne m'attendez pas les gens qui ont la caméra devant eux. Donc dès que vous avez la caméra devant vous, vous commencez à parler pour qu'on gagne du temps.
Tout à l'heure, pasteur, tu parlais donc des attaques sournoises et notamment par rapport à la relativisation. Comment faire face à une personne qui nous dit « Oui, mais bon, la multiplication des pains, c'est pas vrai, bon, ça s'est pas produit. » Alors que nous-mêmes, quand on lit la Bible, on sait ce que Jésus a fait. Mais comment démontrer à cette personne ce que Jésus a fait en mettant face au texte même, mais l'interprétation que lui fait de ce texte, il garde quand même ça comme une image.
Oui, mais ça c'est le texte qui le combat directement, puisque le texte dit qu'il a multiplié les pains. À tel point que les gens mangeaient, il y a eu 12 paniers de reste. Bon, je crois que, moi, c'est dire, j'appelle un enfant de 10 ans, lis ici, qu'est-ce que ça dit, quoi? Ça dit clairement qu'il a multiplié. Ça, c'est ce qu'on appelle la lecture allégorique, quoi. Les gens qui veulent faire de la Bible une image. Bon, quand ça devient une image, finalement, ça devient un livre de science-fiction. Donc, on ne sait pas, quand on dit le pain, est-ce que c'est le pain ou c'est un arbre? Donc, finalement, on ne sait plus. Donc, autant ne plus suivre la Bible, puisque c'est une fiction. Donc, moi, je leur dis ça. Tout est allégorique. Tout est allégorique. C'est pas bon.
Et puis, dernièrement, je parlais avec une personne. Mais,
pour finir, oui. Dieu permet que ces gens-là soient confondus un jour ou l'autre. Il y a des gens, par exemple, il y a quelqu'un qui ne croyait pas, qui disait, mais on voit les miracles dans la Bible, mais moi, je ne les vois pas autour de nous. Je le cite un exemple chez une sœur. Il dit, ah oui, mais ça peut aller par hasard aussi. Je lui cite un autre exemple. Ça peut. Alors, lui-même, il a fait un accident. Et un médecin a consulté son genou. Il a dit, ton genou est pourri. Donc, il faut l'opération. Il m'a appelé, pasteur, il faut prier, il faut que Dieu agisse. Donc, j'ai prié. Un deuxième médecin est venu. Il a regardé dans son genou deux médecins différents. Il a dit aussi, c'est pourri, il faut qu'on opère. On lui met l'anesthésie générale. À un moment, quand il se réveille, il a l'impression que Jésus vient de le quitter. Et quand il se réveille, il regarde, il voit qu'on ne lui a rien fait. Il appelle le médecin, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin dit, mais je ne comprends pas, pourtant j'avais bien fouillé. Tu vois même que j'étais ouvert largement, parce que je m'étonnais de ne plus voir la pourriture que j'avais vue. Donc c'est pourquoi on n'a pas opéré. Mais cette personne-là n'a pas toujours cru réellement, parce que... Mais c'est, on ne croit, les miracles ne font pas quoi. Mais Dieu va te prouver que ce que tu contestais, toi-même tu l'as vécu. Donc Dieu confirme les gens, il y a ce que nous on peut dire, mais c'est que Dieu peut faire visiblement pour leur montrer qu'il peut le faire vraiment, quoi. Oui.
Et dernièrement, j'étais face à une personne à qui j'ai transmis un CD. Et elle a écouté ce CD. Dans ce CD, tu dénonçais un peu le péché de l'homosexualité. Et elle, ça l'a interpellée. Elle en a presque fait son cheval de bataille en disant « Oui, mais bon, vous n'êtes pas tolérant, vous êtes... » Alors moi, je lui ai parlé du texte qui, dans la Bible, qui prouve dans Romains 1 par rapport à l'universalité du péché. Et elle a lu, mais elle dit bon. Et elle en a parlé avec une de ses amies qui est soi-disant une femme de sagesse, est une bonne sœur, tout ça. Et qui se disent, nous, les catholiques, nous, on est plus tolérants par rapport aux homosexuels, par rapport... Alors, comment faire face à cette forme d'interprétation, parce qu'ils disent oui, mais bon, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la parole.
Mais il faut prendre comment maintenant? Parce que si, le problème est là, si la parole est relative, donc on ne peut plus se reposer sur elle. C'est clair, on change de croyance, comme l'Église, j'ai dit mais encore l'Église, le mouvement luthérien qui vient de décider le mariage des homosexuels. Ils disent, ah, l'Église a fait un grand pas. Non, moi j'ai dit, arrêtez de dire l'Église. Vous, vous avez fait un mot. Vous avez reculé avec un grand pas. Ce n'est pas l'Église, c'est vous. Pourquoi ces gens-là insistent pour s'appeler Église, pour s'appeler chrétien? Ils n'ont qu'à s'appeler un autre nom, luthérien, c'est tout. Pourquoi? Donc si on se dit chrétien, on doit. Jésus lui-même a dit que le ciel et la terre passeront. Même pas un seul « i » de sa parole s'enlèvera. Maintenant, toi, tu te dis chrétien, donc tu suis Jésus. Ton chef, lui, te dit que la Bible, c'est sa parole, la parole de Dieu. Mais toi, tu veux dire, non, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Maintenant, il faut faire un choix. Tu n'es plus chrétien et tu as une nouvelle doctrine, voilà, du hasard, et non pas la Bible.
Oui, merci, pasteur. Nous savons que la Bible compte 66 livres.
Oui, oui.
Et nous savons aussi que il y a beaucoup de Bibles qui circulent dans le monde.
Oui, oui.
Est-ce que il y a un moyen de reconnaître une vraie Bible, c'est-à-dire une Bible de la sainte doctrine, d'une fausse Bible?
Oui, oui, il y a des moyens.
Et puis, la deuxième question que j'aimerais vous poser, est-ce que la Bible de Jérusalem fait partie des Bibles autorisées?
Autorisé, c'est-à-dire par...
Pour nous, quoi.
Pour les chrétiens, bon, tout ce qui vient du catholicisme, j'ai dit méfiance, voilà. Donc ça, c'est un, puisque la Bible de Jérusalem a été faite par le catholique, j'ai dit méfiance. Mais maintenant, je commence par la première question. Comment reconnaître une bonne version de la Bible? Alors, la Bible dit dans Éphésiens 4 que Dieu a donné aux chrétiens les apôtres, les pasteurs, les docteurs, pour qu'ils les amènent à la perfection, à la profondeur, à la maturité. Donc chacun de nous a un berger qui a reçu de Dieu les capacités de distinguer une bonne Bible d'une mauvaise Bible. D'une manière ou d'une autre, ce berger-là a reçu cette capacité. Donc, deuxièmement, il y a le côté scientifique des choses. Comme on dit, si on appelle... un avocat, le fruit avocat. Donc, en chinois, eh ben, même un païen sait comment on peut dire avocat en chinois. Donc, la Bible, il y a un côté scientifique. Il y a des livres qu'on appelle les manuscrits témoins qui existent aujourd'hui au British Museum. Comme j'ai dit hier, les livres qui ont servi aux traductions actuelles, ça existe. Donc, si on met du temps et des moyens, chacun de nous, en faisant des recherches, peut bien voir que, voilà, ma Bible respecte les originaux parce que ces originaux existent. Donc, il y a un moyen scientifique de le savoir et il y a aussi un moyen spirituel par les bergers.
Vous savez que les témoins de Jéhovah distribuent des Bibles.
Oui, oui, falsifiées.
Et comment reconnaître cette Bible falsifiée?
Comment un exemple. Dans Matthieu 17, 21, il n'y a rien. Il y a un trait. Oui, oui. Donc, quand tu rentreras chez toi, tu pourras vérifier ça.
Mais je ne l'ai pas.
Matthieu 17, 21. Déchiré. Pardon?
Je l'avais déchiré.
Ben, le jour où tu rencontrais un autre livre qu'on appelle Bible des témoins de Jéhovah, ben, tu vérifieras ça. Deuxième vérification. Avant le péché, Dieu a créé des animaux du bétail. Et dans la Bible des témoins de Jéhovah, on va dire des animaux sauvages. Ce n'est pas normal. Les animaux sont devenus sauvages après le péché. Donc c'est dire que Dieu, dès le départ, a créé le mal. Ce n'est pas normal. Et donc, il y a plusieurs exemples de ce genre-là.
Oui, mais vous comprenez que c'est assez difficile de retrouver toute cette...
Ah si? Là, maintenant, tu le sais, non?
Oui, mais... C'est pas écrit Bible de témoin de Jéhovah. Hein.
C'est une traduction du monde nouveau.
C'est écrit tout simplement la Bible.
Non, c'est écrit traduction du monde de nouveau et à la, en bas, c'est écrit Société des témoins de Jéhovah. C'est écrit quand même, mais bon, en petit, quoi. Mais y a une chose à dire. Comme je vous l'ai dit, les choses essentielles, tout le monde a du mal à casser ça. Que Jésus soit mort à la croix pour nos péchés. Donc, si vraiment on croit en Jésus, Jésus finit par nous sortir des fausses Bibles, quoi, des fausses traductions. Je finis avec cette histoire de traduction parce que j'ai voulu en parler en attaque sournoise, mais je n'ai pas parlé de ça en attaque sournoise parce que les traductions ne sont pas des attaques sournoises. Après, il y en a qui peuvent toujours faire des mauvaises traductions pour essayer de semer une mauvaise doctrine. Mais les traductions en soi ne sont pas mauvaises. C'est des bonnes choses parce que Dieu veut parler à toutes les nations. Il veut parler à tous les peuples. Il ne veut pas nous parler tous en hébreu, en grec. En plus, c'est des langues, surtout le grec. Même l'hébreu de la Bible n'est plus utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un hébreu, mais c'est l'hébreu moderne. Donc, comment Dieu peut nous parler par des langues qui ne sont plus utilisées? Donc, on est obligé, américain, d'apprendre l'hébreu de grec. Non, Dieu, c'est quelqu'un qui veut nous parler instantanément. Donc, c'est normal qu'il y ait des traductions pour traduire les écrits anciens. Mais du moment qu'il y a un système de traduction fiable, scientifique, on peut faire confiance en cela, quoi. Savoir que Dieu s'occupe de cela pour nous faire parvenir sa parole, même traduite, mais fiable, quoi. Oui, Christelle.
En parlant de relativisation, comment répondre, par exemple, moi, parfois quand je discute avec plein de Congolais qui parlent de polygamie, ils disent que c'est normal. De toute façon, Salomon, c'était bien un homme de Dieu, il a eu plusieurs femmes. Et donc, ils justifient ça comme ça, par exemple. Comment répondre à des gens qui sont bloqués, qui sont obstinés, qui trouvent que la polygamie, ce n'est pas interdit dans la Bible. Comment répondre à ces gens?
Non, la polygamie était interdite dans la Bible, hein, puisque dire que la polygamie n'est pas interdite, c'est ce qu'eux, ils disent. Mais je commence par... quand on lit 1 Corinthiens 7, on voit bien qu'on dit que chacun ait sa femme. Hein, et donc, on ne parle pas qu'il ait ses femmes. Et on dit dans 1 Timothée 3 que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Donc on ne voit pas comment on peut donner une instruction à un évêque et pas la même instruction à un chrétien. Donc l'évêque doit être mari d'une seule femme, c'est clair. Et pour aller plus loin, mais est-ce que les apôtres avaient combien de femmes? Parce que ces gens-là, ils se disent chrétiens. Ils n'ont qu'à se dire salomoniens. Parce que s'ils sont salomoniens, là, d'accord, ils vont suivre Salomon avec plusieurs femmes. S'ils se disent chrétiens, est-ce que leur maître, Christ, il avait combien de femmes? Voilà. Donc, et les apôtres de Christ avaient combien de femmes? Donc, comment ils peuvent se dire chrétiens et suivre Salomon? C'est ça les contradictions qu'on retrouve. Il y a des gens, ils s'habillent, ils veulent montrer les marques. Ils disent, nous suivons Salomon. Oh, mais alors appelle-toi salomonien. Arrête de t'appeler chrétien. Donc, tu sautes le pôle, tu sautes les gens, tu t'accroches à Salomon. Ce n'est pas normal. Il y a 1 Corinthiens 7 et puis 1 Timothée 3. Mais quand on lit la Bible, c'est pourquoi je parle des choses générales, essentielles. On discerne que Dieu n'est pas d'accord avec la polygamie. Hein, parce que Genèse 2, 24 nous dit clairement, il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et puis, une question. Donc, on ne peut pas faire plusieurs chairs après. Tu vas encore quitter. Je ne sais pas quelle opération ça va se faire encore. Puisque tu es déjà devenu une seule chair avec une femme. Comment aller. Quelle opération? Vous deux, vous quitterez quoi pour aller faire chair encore avec quelqu'un d'autre? C'est du désordre. Hein. Dès la Genèse, on voit déjà que. Mais le Seigneur a toléré certaines choses dans l'Ancien Testament, vu que le cœur de l'homme était dur. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus dit quand il parle du divorce toléré par Moïse. Il dit, Moïse a toléré ça parce que vos cœurs étaient durs. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes prêts à appliquer la parole telle qu'elle est donnée dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament.
Oui, moi je voulais, enfin, une petite remarque, c'est vrai que par rapport au fait que, enfin, on empêche les gens de lire la Bible. Moi, je sais qu'une fois, j'avais vu une Bible, justement, catholique. Pasteur, c'était un gros manuel, mais vraiment très, très gros. Et ça ne donnait pas envie, quoi. Et donc, quand je me suis convertie, que j'ai vu qu'on pouvait avoir une Bible, lui, seconde, toute, enfin, petite, ça m'a quelque part libérée. Parce que l'image que j'avais de la Bible, c'était le gros livre des anciens, quoi. Et c'est vrai que bon, ça, c'est aussi une attaque par rapport à la Bible. Et la deuxième, la question que je vais poser, c'est en tant que chrétien, c'est vrai que on met la Bible en pratique et on essaye de marcher selon la Bible. Mais comment mettre la Bible en pratique dans nos vies de tous les jours, c'est-à-dire hormis ce qui est écrit, mais par rapport à un travail ou par rapport à des choix à faire, comment mettre la Bible en pratique? Parce que la Bible ne dit pas par rapport à tout ça, en fait. Par rapport à un choix à faire, par rapport au travail, par rapport, je sais pas.
Moi, je crois que souvent, on a des problèmes par rapport au choix. Après, le reste est très simple, en pratique. Le seul problème qu'on rencontre souvent, nous, en tant que chrétiens, c'est les chemins à prendre. Parfois, on a des difficultés à savoir qu'est-ce que veut Dieu. Et je pense que ça n'est pas lié directement à la doctrine biblique, à la parole telle qu'elle est, qui fait de nous des gens qui ressemblons à Dieu de plus en plus. C'est lié à ce qu'on aimerait savoir par rapport à notre avenir. Donc, une orientation. Moi, j'ai une règle. Je dis, on prie. Puisque la Bible dit que dans Jean 16, 13, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. On prie pour savoir ce qu'il veut. Maintenant, si on ne sait toujours pas, on prend un chemin dans la confiance que le chemin que nous prenons, si ce n'est pas de lui, il nous arrêtera parce qu'il est bon. C'est ça qui... Parce que le piège que Dieu ne veut pas dans lequel Dieu ne veut pas qu'on tombe, c'est le piège de la divination. Vouloir à tout prix que Dieu nous parle d'une manière comparable à des voyants. Non. Dieu peut le faire parfois, mais il ne va pas le faire tout le temps. Il ne voudrait pas qu'on marche comme cela. Il voudrait qu'on s'habitue à lui faire confiance. Le juste vivra par la foi. Et maintenant, en vivant par la foi, le Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité, soit par une vision, soit par un témoignage de quelqu'un, soit par un conseil, soit juste parce que lui-même, il décide de prendre un chemin, et si ce n'est pas de lui, il l'arrêtera. À nous d'être attentifs quand Dieu nous arrête. Et souvent, lorsqu'on est aussi, on a des problèmes d'orientation, c'est parce que on a notre choix en réalité. On ne veut pas trop s'engager à ce que Dieu précise son choix à lui. Et Dieu aussi non plus ne répond pas. Hein. Et un troisième problème, le manque de transparence. Donc quand on a une orientation, soyons clairs devant Dieu et devant ceux à qui on doit être clair pour que. Parce que Dieu ne marche pas dans ce qui est caché. Et donc parfois, on peut vouloir cacher les choses. Et Dieu peut bloquer ça parce que il veut la transparence. Donc, on voit dans des familles, certaines femmes cachent des choses à leur mari et l'inverse, des enfants qui cachent. Et puis, ça crée une atmosphère de flou dans laquelle Dieu ne peut pas travailler, quoi. Oui.
Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui disent, par exemple, traduction, trahison. Par rapport à la parole. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui se disent, bon, bah, le fait de traduire quelque chose, on peut aussi le trahir par la traduction. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça?
Oui, mais c'est possible. Mais le problème, c'est que nous parlons de la parole de Dieu. Dieu veille à ce que nous ayons la bonne transmission. Donc, traduction égale transmission, cette fois-ci. Quoi. Donc, parce que Dieu, lui, il veille à cela. Il veut parler à tous les peuples. Donc il faut que ça soit traduit, la parole de Dieu, pour que tout le peuple soit au courant de ce que Dieu dit.
On peut répondre ce que tu viens de dire quoi, aux personnes qui disent ça. Quoi.
Il est vrai qu'en traduisant, parfois le traducteur est face à un mot. Par exemple, quand je dis tâche en français peut vouloir dire travail, quelque chose à faire. Ou une saleté sur un habit. Donc, quand je vois tâche, c'est un exemple que je donne. Donc, j'ai plus deux possibilités si je dois traduire ça en chinois. Donc, j'entends tâche. Donc, maintenant, il y a le contexte qui m'aide à savoir si c'est la tâche ou c'est la saleté ou bien c'est le travail à faire. Donc, parfois, le traducteur est devant un choix à faire pour restituer un mot dans une autre langue. Alors, maintenant, il faut savoir que pour les choses essentielles, il n'y a aucun problème dans la Bible. Tout est... Que Jésus soit mort, je ne vois pas quel autre... qu'il soit ressuscité, je ne vois pas quel problème on aura à traduire cela, quoi. Donc c'est... Après, il y a des petites nuances, mais qui n'altèrent pas le sens de la parole, quoi. Pas du tout, quoi. Mais qui font quand même... C'est quand même des nuances.
Comment faire la différence entre ce qui parfois est imagé dans la Bible et ce qui ne l'est pas, ce qu'on doit prendre au pied de la lettre, et ce qui est imagé comme les paraboles de Jésus ou certains passages imagés? Comment savoir ce qui...
Mais déjà, pour les paraboles, Jésus lui-même l'a dit, que c'est imagé exprès. Donc dès le départ, il dit, c'est fait exprès afin que les gens ne comprennent pas, et que ceux qui comprennent soient ceux-là à qui Dieu veut faire comprendre. Donc, dès le départ, les paraboles, on peut déjà savoir que c'est imagé. Maintenant, après, il y a certaines prophéties, notamment d'Apocalypse, de Daniel. Dès le départ, le contenu du texte lui-même, quand on parle d'un ours, on parle, alors qu'il s'agit de pays, on comprend que l'ours, là, doit être un pays. Parce que le contexte prête à cela. Mais comme je l'ai dit, les choses les plus importantes, les plus essentielles concernant notre salut, concernant Dieu, ne sont pas imagées. Elles sont claires. Mais il y a des choses qui ne sont pas moins importantes, mais secondaires, qui peuvent être imagées. Mais le contexte nous aidera à comprendre si c'est imagé ou si c'est réel. Je donne un exemple. Et c'est ce qu'on appelle la lecture allégorique. Il y a des gens qui exagèrent dans ces images-là. L'histoire de la parabole du bon samaritain. Vous savez, l'image qu'en donnait Augustin, que les catholiques appellent Saint Augustin. Donc, le bon samaritain, c'est en réalité Jésus. Jérusalem, je crois, c'est le paradis. Jéricho, c'est le monde. Le prêtre, c'était quoi? Le prêtre, c'était le judaïsme. Jésus amène le christianisme. Mais comment se fait-il que le docteur là, juif, il a compris la parabole alors que Jésus n'était pas encore mort? Parce que pour lui, pour cet homme-là, l'homme qui était tombé, c'était sa mort, et il est ressuscité en Jésus. Bon. Mais comment le docteur, lui, l'a compris? Parce que Jésus lui a dit, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Mais comment ce docteur a compris alors que Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité? Donc on voit que cette image-là, cette allégorie-là est fausse parce que ça ne tient pas compte de la réalité sur place. Parce que pour que le docteur comprenne ce que Augustin dit là, donc il aurait fallu qu'il vive jusqu'après, que ce soit après la mort de Jésus-Christ. Or, il n'avait pas vécu cela. Comment demander à un docteur de comprendre ça? Alors que la Bible nous montre bien que ce docteur a compris. Voilà, donc le texte peut nous aider à comprendre que ça c'est une image, ça n'en est pas. Et donc il faut faire attention justement. Demain, je voulais peut-être en parler de comment interpréter la Bible. Mais en y réfléchissant, j'ai vu que c'était un dossier un peu long. Je me suis dit que j'ajouterai un jour pour ça. L'exagération dans l'allégorie, en général, les gens le font pour avoir de la puissance sur les autres. Parce que ces images-là, ce n'est pas écrit. C'est quelqu'un qui vous dit que ça, la pierre-là, en réalité, c'est un arbre. Ça, en réalité, c'est un ours. Mais alors qu'on dit que c'est une feuille. Alors, donc, ça fait de lui-même la source. Donc, il devient plus important que vous qui devez entendre ces images qu'il vous donne. Et ça enlève à la Bible son autorité, puisque ce ne sont que des images. Non, je crois qu'il y a des choses qui sont imaginées et le contexte nous aide à le comprendre. Il y a des choses qui sont claires. Donc, quand Paul dit... Apportez-moi, quand tu viendras, Timothée, amène-moi mon manteau, parce que l'hiver commence, et des livres. Alors, il y a des gens qui trouvent encore des explications. Le manteau, là, c'était peut-être son onction. Mais non, mais il aura froid, il a besoin du manteau, c'est tout. Pourquoi? Alors, il y a des choses qui sont claires. L'hiver approche, apporte-moi mon manteau quand tu viendras. Alors, il y a des gens qui trouvent toujours des images. Non, non, le contexte doit nous aider à savoir si c'est allégorique ou bien c'est normal. Mais... à savoir, comme je l'ai dit, les choses essentielles, importantes, tout est clair. Il n'y a pas de confusion, quoi. Oui.
Il y a des pensées qui ont été... j'ai passé au travers de tout ça. Des églises qui se tenaient que sur la parole de Dieu manquaient certaines choses. On est basé sur la parole de Dieu, c'est vrai, la Bible, mais... ça faisait croire que les églises qui étaient plus ouvertes avaient plus il y avait plus d'outils pour pouvoir bénir leur église que si des églises étaient, je sais pas comment on les appelle, des églises qui se tiennent que sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme des églises étroites, si tu veux. C'était une mentalité que j'avais reçue, des églises qui avaient que la parole de Dieu, tu sais, qui n'étaient pas ouvertes à tout ce que tu mentionnes, mode, OK? C'était des églises étroites qui manquaient des bénédictions.
Oui, non, mais là, il y a une différence à faire. Il y a des églises, effectivement, qui sont étroites, qui disent que nous sommes basés sur la parole de Dieu, mais qui rejettent les dons du Saint-Esprit. Là, moi, je ne suis pas non plus d'accord. Moi, mon problème, c'est que il ne faut pas qu'il y ait des modes. Maintenant, c'est le parler en langue, c'est la prophétie. Non, c'est toute la Bible. Et dans la Bible, il y a les dons du Saint-Esprit, il y a les prophéties. Et nous vivons au jour le jour tel que le Saint-Esprit nous conduit. On ne lui impose rien. On ne lui dit pas, nous voulons les miracles, nous voulons ceci. On n'impose rien à Dieu. On se laisse conduire par lui. Maintenant, il y a des églises réellement qui disent, nous sommes fondés sur la parole, mais qui ne croient pas aux miracles, qui ne croient pas au don du Saint-Esprit, qui ne croient pas en la puissance de Dieu. Alors, donc, ça fait aussi problème. Donc, ils insistent que sur le péché et sur... effectivement, ils vont rater certaines bénédictions parce qu'ils refusent toute la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ces églises-là qui se disent ouvertes, en réalité aussi suivent des modes. Au lieu de suivre tout simplement Jésus, et Jésus fera les dons au bon moment, fera les miracles au bon moment, ils suivent plus Jésus, ils insistent, ils disent, une bonne église, on doit avoir tous les dons, on doit avoir tous les miracles, on doit... Alors, ils ont forgé leur image d'une église. Or, quand on lit la Bible, on voit, il n'y a aucune image. Il n'y a que des temps. Il y a un temps dans les actes des apôtres, il y a les miracles, l'évangélisation qui se fait. On voit dans les épîtres, il y a un temps où on redresse les gens, on redresse la doctrine. Il y a des temps où Dieu fait ce qu'il veut. Donc nous, on le suit, on ne l'oblige pas à vivre telle chose. On veut seulement être avec lui. Seigneur, sois là, c'est tout. Et nous, on te suit et on veut vivre toute la Bible. Voilà, on manifeste ce désir-là.
Parce que l'histoire de lire des livres, on était beaucoup, en tout cas, j'ai été beaucoup encouragée à lire des livres. Parce que manque de connaissances, le peuple périt, donc, et les livres étaient dans des librairies chrétiennes et... Donc, et puis aussi, j'ai appris des choses dans les livres.
Oui, moi je n'ai
sans,
pas...
Sans en faire des choses plus importantes que la Bible, mais en avoir fait
mais
des choses...
Mais ça, c'est toi. Mais nous connaissons beaucoup de gens qui sont devenus esclaves des livres et des fausses doctrines par les livres.
Oui.
Donc, après, nous tous, on n'a pas reçu la même semence dès le départ qui nous a fait... éviter ce piège-là, mais il y a beaucoup qui sont tombés dans ce piège-là. Mais pourquoi le marché chrétien fonctionne très bien ? C'est parce qu'on a réussi à faire gober aux chrétiens d'acheter les livres et les livres et les livres, d'acheter les CD et tout, ainsi de suite. Hein. C'est le marché chrétien.
Oui, c'était mon autre question. C'était mais pourquoi les évangéliques ont inventé des librairies chrétiennes ? Pourquoi est-ce qu'on nous encourage à lire ? Est-ce que c'est une business ? Est-ce que c'est l'argent qui est derrière ou est-ce que c'est qu'on veut vraiment...
À un certain moment, il y a quelqu'un qui encourage à lire les livres, donc il y a des gens aussi qui suivent les modes, hein, et qui ne sont pas à l'origine, mais il y en a beaucoup qui sont dans le business. C'est l'argent qui est là.
Parce que quand on parle des docteurs de la parole, c'est des gens qui ont des spécialités révélées, j'imagine, de la parole de Dieu, non?
Non, c'est des gens qui sont là pour donner, faire de ce qui est compliqué, rendre ça simple aux autres.
Mais ils vont le mettre en écrit, ce qu'ils auront reçu, non?
Ils vont mettre en écrit et Dieu va répandre.
Donc, pas tous les livres qui sont écrits sont mauvais.
Ah non, je n'ai pas dit ça.
OK, non, voilà. Mais c'est juste...
Donc, j'ai dit tout simplement qu'il faut lire les livres à la lumière de la Bible. Et non l'inverse, lire la Bible, tu es en réalité influencé par un livre.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, avec le temps, pour être sorti des modes, quand je relis... les titres des livres, je suis affolé, quoi. Or, à l'époque, je les trouvais très bons, certains titres, et ils parleront en langue. Donc, à l'époque, j'aimais bien tous ces livres-là. Aujourd'hui, quand, avec l'éducation que j'ai reçue liée à la Bible, je me rends compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs, quoi. Si Dieu... Des gens comme Corneille, il n'a pas demandé à parler en langue. Il était là, il écoutait Pierre, tout de suite, il a commencé à parler en langue. Aujourd'hui, mais quand tu lis ce livre-là et ils parleront en langue, on te montre, c'est comme si le bon chrétien sera reconnu, le bon mouvement sera reconnu par ce don-là. Et on a été dans beaucoup de pièges qui nous ont fatigué la vie. Parce qu'après, ça finit par forcer les gens à parler la langue. Après, ça finit par forcer les gens à tomber. Et voilà. Après, ça finit par toucher les fétiches pour prophétiser et faire tomber les gens. Ça épuise. C'est très, très dangereux. Je crois que la parole, c'est Jésus. Nous devons suivre Jésus. Tout celui qui s'égare en suivant des modes ou en suivant des hommes, il finit toujours mal. Jésus nous guidera vers les bons bergers qu'il a prévus pour nous. Et c'est ce qui garantira notre croissance. Oui, Pascal ?
Oui, je voulais demander, est-ce qu'on peut considérer comme une attaque sournoise le fait que depuis des millénaires et mondialement, il y a eu la persécution du peuple juif pour justement le détruire et donc détruire le peuple de Dieu, ce qui amènerait à dire que la Bible est fausse puisque son peuple n'existe plus.
Effectivement, ça, c'est une attaque indirecte aussi. Alors,
ça, ce serait la première. Et la deuxième, des juifs eux-mêmes, est-ce que le fait qu'eux ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, ne le reconnaissent pas comme ayant ressuscité donc le Sauveur, n'est pas là aussi une attaque pour qu'une partie de la Bible ne soit pas acceptée de leur part et que donc on puisse les suivre aussi dans cette erreur pour dire à un moment qu'il y a doute sur la Bible et après, à partir du moment où un doute s'installe, on peut douter de tout.
Moi, je crois que le premier cas, c'est vrai. Donc l'objectif du diable, par exemple, c'est empêcher un chrétien d'appliquer la Bible. Donc quand un chrétien n'applique pas la Bible, ça fait que autour de lui, les gens se moquent de ses revendications chrétiennes, finalement de la Bible, et il n'y croit plus. Mais c'est la même chose que le fait d'éliminer tous les juifs, parce qu'éliminer tous les juifs finit par ôter à la Bible sa crédibilité, parce que la Bible parle du retour des juifs, parle de leur état, de leur pays, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a même j'ai entendu un courant qui dit qu'il n'y a plus de vrais juifs. Alors ça contredit totalement la Bible. Mais la personne qui m'a parlé de ça, c'est un chrétien. Mais il ne se rend pas compte. Peut-être que lui, il croit que, en écoutant les infos qui disent qu'il n'y a plus de vrais juifs, lui, peut-être qu'il ne voit que la politique de Benjamin Netanyahu. Il voit ces choses-là, mais il ne se rend pas compte que ça réunit sa propre foi. Parce que son Dieu, à lui, parle des juifs, il dit que c'est son peuple. Donc le problème est là. Un peuple qui n'existe pas et Dieu dit que c'est son peuple, c'est contradictoire. Romains 11 dit que nous les chrétiens, nous sommes l'olivier sauvage. Nous avons été greffés à l'olivier franc qu'est Israël. Donc ça contredit sa propre foi, mais ça ne rend pas compte parce qu'on peut avoir les projecteurs fixés sur autre chose, sur les problèmes politiques. On nous montre des images des Palestiniens qui sont attaqués. On nous parle des francs-maçons qui ont construit le Parlement juif. Oui, mais ça ne change pas le fait que c'est le peuple de Dieu, voilà, et qu'il y a des vrais juifs, puisque Dieu en parle dans la Bible, qu'ils reviendront dans leur pays, et ainsi de suite. C'est toujours des politiques de nuire à la Bible. Voilà. On va prier alors, s'il n'y a pas d'autres questions, que le Seigneur nous aide à nous accrocher à la Bible. C'est sa parole. Et il faut se dire une chose, ce qui est écrit dans Psaume 11:3. S'il n'y a pas de fondement, le juste, que fera-t-il? Si tu n'as pas une référence infaillible, tu vas te reposer sur quoi? Si la Bible est discutable, alors ta foi se repose sur quoi? Parce que si ta foi se repose sur Jésus, mais Jésus, on en parle dans la Bible. Jésus a dit de la Bible que c'était sa parole infaillible. La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu infaillible. Maintenant, toi, tu reconnais Jésus, tu négliges ce que lui dit sur la parole. Donc, il y a un problème. Parce que c'est Jésus-là qui a dit aux apôtres d'enseigner ce qu'il a prescrit. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce Jésus-là qui a dit aux gens que tout passera, mais les Écritures ne passeront pas. Donc, il faut que tu fasses un choix en tant que chrétien. Soit la Bible est totalement la parole de Dieu, soit mais finalement tu n'es plus chrétien parce que tu n'as plus de fondement radical. On peut toujours t'agiter par de nouvelles logiques. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on maîtrise tout? On ne maîtrise pas tout. Deutéronome 29:29 nous dit « Les choses cachées sont pour Dieu. Celles qui sont révélées sont pour nous. » Notre foi nous convainc que toute la Bible est la parole de Dieu, parce qu'on a vu le processus d'élaboration de la Bible. On a vu l'attachement de Dieu par rapport aux écrits. Donc Dieu a voulu nous léguer sa parole par les écrits. Alors quels sont ces écrits? Eh bien, aujourd'hui, c'est la Bible que nous avons. Et c'est un cadeau de Dieu que personne ne nous vole cela. Nous devons être attachés à ça, parce que si on n'a plus de fondement, même si on a des intentions d'être bon, on n'aura pas de base radicale sur laquelle se reposer. C'est très important de vraiment serrer cette parole dans nos cœurs, que personne ne nous l'arrache. C'est elle notre fondation, notre fondement. Nous allons prier que Dieu nous aide, même si on peut être déstabilisé par d'autres questions. Moi, je connais même des choses que je peux donner qui ont déstabilisé certains, mais il y a toujours des réponses. Dieu a toujours toutes les réponses. On doit lui faire confiance. Il va nous donner les réponses. On doit faire confiance que c'est sa parole. Et nous verrons notre vie changer, transformer. Moi, j'ai été transformé le jour où j'ai accepté. J'ai accepté officiellement comme ça par la bouche. Mais le jour où mon cœur a accepté que dans l'arche de Noé, il y avait tous les animaux, j'ai été libéré, quoi. J'ai senti en moi, je me suis senti entrer dans une nouvelle étape avec le Seigneur. C'était un blocage. J'avais tellement appris l'évolution à l'école que j'avais toujours un blocage. Et le jour où j'ai été libéré de l'évolutionnisme, je me suis senti fort. La gloire de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Donc, il faut vraiment s'attacher à la Bible pour vivre la gloire de Dieu.